Radio Kapi.
La sécurité et défense du territoire national, il en sera question en début de cette édition avec cette évaluation que mène le chef d'état-major des FRDC avec ses commandants quant aux opérations militaires contre les groupes armés dans la partie est de la RDC, principalement dans la région de Beni. Droits des femmes, nous en parlons aussi dans ce journal avec un accent sur le témoignage à Boutembo de Sephora Maroy, mannequin professionnel âgé de 23 ans. Elle est aussi parmi les 27 lauréates du prix Grande Image de la Femme Congolaise décerné par Congo Excellence Internationale. Docteur Sangare Idrissa, coordonnateur du projet Prise en charge nutritionnelle de l'ONG Alima, nous parle en fin de ce journal comme invité des actions en matière de nutrition en faveur des enfants de la zone de santé de Kailo. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Okapi pour votre information. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Pour garder l'élan de l'engagement manifeste et du soutien en faveur des léopards, un mot sur ce message du chef de l'État Félix Tshisekedi qui tient à la victoire des léopards lors du match retour de barrage Qatar 2022 au Maroc. Juste après le coup de sifflet final au stade des Martyrs vendredi dernier, le président de la République a rejoint les 11 nationales auprès de qui il a témoigné sa reconnaissance pour l'engagement lors de ce match allé contre les Marocains qui s'est soldé par un score d'un but partout. Félix Tshisekedi les a encouragés et manifesté sa détermination pour voir la RDC participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Suivez plutôt Félix Tshisekedi dans cet extrait.
Ne nous décourageons pas les gars. Cette équipe, elle est prenable. Les gars, vous avez bien joué. Vous ne devez absolument pas être complexé. Soso, tu as été le meilleur joueur pour moi. Selon moi. Ah, tu as été excellent. Pour moi, tu es le meilleur du match même. Tu as fait un match excellent. Vous n'avez pas démérité. Ce 1-1, pour moi, c'est un score injuste. Qui n'est pas... Vous méritiez de gagner ce match par 3-1 ou 4-1, normalement. Mais c'est pas grave. À charge pour nous de revanche, nous allons au Maroc. La tête haute, le moral haut, en se disant que nous allons ramener la qualification. On n'a rien perdu. 1-1, aujourd'hui, il n'y a plus la règle des buts marqués à l'extérieur qui compte d'où. Donc c'est comme si on recommençait le match. Donc ne vous en faites absolument pas. Il n'y a rien de perdu. Si tout va bien, je serai avec vous là-bas, à Gaza, et on va vous soutenir encore là-bas.
Le premier titre de cette édition à présent, Nord Kivu. Une réunion d'évaluation des opérations militaires contre les groupes armés dans la région de Beni a eu lieu vendredi. La réunion a été présidée par le chef d'état-major général des FRDC en mission dans la zone. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Ont pris part à cette réunion les gouverneurs militaires du Nord Kivu, les commandants de la 3e zone de défense des FRDC, les coordonnateurs des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises, les commandants des opérations Sokola 1, ainsi que les responsables des renseignements civils et militaires. Selon des sources militaires, le chef d'état-major général des FRDC voulait se rassurer du bon déroulement et de l'avancement des opérations militaires contre les ADF et d'autres groupes armés locaux. Un briefing militaire a donc été fait, suivi d'un échange et partage d'informations entre les différents participants. D'après la même source, le général d'armée Célesté Mbala a donné de nouvelles instructions précises pour l'amélioration sur terrain de la qualité du travail des FRDC et ses partenaires de l'armée ougandaise et de la MONUSCO. D'autres sources sécuritaires disent qu'après Beni, le chef d'état-major général des FRDC doit se rendre à Goma où il aura une autre réunion de haut niveau avec certains membres du gouvernement dans le cadre toujours de l'évaluation des opérations militaires au Nord Kivu et en Ituri. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Nous restons toujours dans la partie est du pays, au Nord Kivu une fois de plus, un mort, plusieurs champs et 7 habitations, dont 2 écoles complètement détruites à Kalengera Centre. C'est le bilan encore provisoire de la pluie diluvienne qui s'est abattue vendredi dans la région de Kalengera, en groupement de Bweza, dans le territoire de Rutshuru. Cette pluie, accompagnée d'un vent impétueux et des grêles, a détruit également plusieurs cultures dans les champs des populations locales. Le responsable de la coordination territoriale de la société civile redoute ce qu'il qualifie d'une disette imminente dans le secteur de Kalengera. Jean-Claude Bambazé explique au téléphone de Gabriel Ouamenia.
Donc c'est hier, le 24 mars vers 14h, qu'une pluie, en tout cas, s'est abattue sur Kalengera, notamment dans le village qu'on appelle Ngerenge, c'est là, c'est Kalengera Centre. Cette pluie a causé, en tout cas, des dégâts énormes, notamment un enfant de 6 mois est décédé pendant que sa maman a été grièvement blessée. Donc, pendant la pluie, ils se sont habités sous un arbre. et une branche de l'arbre s'est attachée et est tombée sur elle. L'enfant est décédé et la maman est hospitalisée. Il y a eu 5 maisons qui ont perdu des toitures dans le cadre d'une guerre de Kalimera Centre, mais également il y a 2 salles de classe de l'été Kitarama qui ont perdu leur toiture. Et là, il faut aussi parler en tout cas de cultures, de plantes qui ont été sérieusement abîmées à cause de la pluie accompagnée de grêle. Et donc, c'est pour vous dire que ici là, en tout cas, on va assister à une famine suite à cette période culturelle qui vient d'être abîmée par cette pluie diluvienne.
Autre dégât de pluie, plus de 20 bâtiments de 7 écoles, 5 églises et plus de 30 maisons des particuliers endommagées. Tels sont les dégâts causés par la pluie le vendredi 25 mars dans la cité de Gnoki, territoire de Koutou, province du Maïndombé. La société civile locale qui livre l'information attribue cette situation notamment aux constructions anarchiques ainsi qu'à la poussée de plusieurs têtes d'érosion dans la cité. Isebo Lemo, son président, lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour l'assistance de ses familles désormais sans abri et de ses écoles en vue de l'égrès. Construire. Nous venons de l'apprendre, la pluie qui s'est abattue sur le territoire de Bukama dans la province du Olomami a causé de nombreux dégâts. Plusieurs maisons se sont écroulées et les sinistrés qui passent la nuit à la Belle Étoile nécessitent une assistance à en croire l'administrateur du territoire de Bukama en charge des questions politiques et administratives. Trudon Lengue a été joint par Jean Gandou.
Il y a 45 maisons totalement écroulées dans les quartiers Brikkuit, également aussi à Kibanda, dans la chefferie Kibanda, groupement Fungwe. Une dame a été emportée par les eaux de pluie et le corps n'est pas encore retrouvé. Selon les contacts que nous avions eu ce matin avec le chef de chefferie Kibanda, l'équipe de recherche est en train de faire son travail afin de retrouver son corps parce qu'il s'est noyé dans la rivière Fungwe. Les sinistrés jusque-là passent nuit à la Belle Étoile. Demandons peut-être aux humanitaires s'ils peuvent les appuyer également aussi aux autorités politico-administratives, notamment les autorités provinciales, pour que ces compatriotes qui continuent à passer nuit avec leurs enfants à la Belle Étoile, les autres sont dans les familles d'accueil. Les nombres de sinistrés que nous avions recensés juste à présent, au nombre de 230, les enfants et les femmes ainsi que les hommes qui nécessitent un encadrement ou un appui, surtout pour les enfants parce qu'ils sont vraiment vulnérables.
Autre nouvelle, le cobalt de la RDC est un élément essentiel pour la production des batteries de véhicules électriques et la demande de ces batteries augmente au rythme de la demande accrue des véhicules électriques. Pour cela, la RDC est appelée à mettre en place une politique de bonne gouvernance dans le secteur minier qui va apporter du profit à la population et au gouvernement. C'est à lettre de l'ONG britannique Natural Resource Governance Institute, NRGI, dans son dernier rapport publié le vendredi 25 mars 2022 à Kinshasa. On écoute Roger Vutsoro, directeur pays de l'ONG NRGI, au micro d'Adolphe Ngoy.
Il faut de la transparence dans l'octroi des licences, notamment regarder les aspects de diligence des entreprises, les aspects de lutte contre la corruption, de fiscalité flexible et les aspects de compétition dans le transfert d'actifs. Est-ce que la politique nationale, est-ce qu'on utilise l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, donc l'ITIE? Nous insistons sur le fait que si la RDC ne profite pas de ce moment ici où le cobalt est encore très demandé pour améliorer sa gouvernance, il pourrait ne pas tirer profit des opportunités qu'accorde la transition énergétique aux pays producteurs de cobalt. Donc, il faut agir maintenant parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps pendant lequel le cobalt restera critique. Si la RDC n'améliore pas la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement de cobalt, les entreprises pourraient s'en passer et chercher les alternatives ailleurs. Et dans ce cas, nous aurons loupé une opportunité pour tirer profit de cette manne qui est le cobalt.
Parlons à présent des droits de la femme. L'équipe conduite et discipline de la MONUSCO Béni a organisé ce samedi un atelier de sensibilisation des femmes vulnérables sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. Une cinquantaine de femmes et jeunes filles ont pris part à cette activité qui avait pour objectif de les outiller sur la lutte contre ce phénomène. Martial Papi Moukeba nous en parle.
Au total, 50 femmes, parmi lesquelles des femmes vulnérables et certaines leaders communautaires de Béni, ont pris part à cette activité. Elles ont été sensibilisées sur les risques d'exploitation et d'abus sexuels, l'existence des outils destinés à les combattre et les mécanismes de dénonciation des différents cas. Mbete Mbaina Jim, responsable de l'équipe de conduite et discipline de la MONUSCO Béni, parle de l'importance de cette activité.
Il s'agit là pour nous de travailler avec une couche très vulnérable de femmes pour leur expliquer quelles sont les contraintes des personnels des Nations Unies en matière de relations et quelles sont aussi les obligations humanitaires lorsque nous sommes en opération comme celle-ci au sein de la MONUSCO à Béni.
Cette sensibilisation apportera un plus dans la lutte contre l'exploitation et abus sexuels, comme le dit Madame Ritza Bouni, responsable du bureau JAR, famille et enfants dans la ville de Béni.
Elles sont maintenant informées comment alerter, comment orienter les plaintes, comment faire les suivis et à qui adresser.
Rappelons qu'au moins 83 cas d'abus sexuels commis entre 2018 et 2020 par les personnels de l'OMS avaient été rapportés au Nord Kivu et à Ituri lors de la riposte contre la 10e épidémie d'Ebola. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
À Butembo, 27 femmes ont reçu en début de la semaine le prix Grande Image de la Femme Congolaise dans le cadre de la célébration du Mois de la Femme. Il s'agit des femmes défenseurs des droits de la femme, actrices politiques, entrepreneuses, policières, chercheuses et journalistes qui ont été primées pour leur savoir-faire et engagement. Le prix leur a été décerné par l'ASBL Congo Excellence International Coexi RDC, une structure de vente et de promotion de l'image positive de la RDC et la valorisation de son peuple. Florida Kahambu nous en parle.
Selon les organisateurs, ce prix a été décerné à ces femmes dans le but d'encourager les autres femmes dans le cadre de la résilience dans la région de Butembo-Béni en proie à l'insécurité. Parmi elles, Mbambou Louvouno Devote, présidente du parti politique Éveil de la conscience pour le travail et le développement, ECT. Elle est la seule femme responsable des partis politiques dans la ville. Mwamini Kalwana est une femme paysanne qui a été primée pour la transformation artisanale du cacao et du café de spécialité. Cette dernière fournit des paquets de café à différents supermarchés et alimentations locales. Dolorose Marie Kafania, une autre femme récompensée, a été primée pour son combat qu'elle mène depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les violences sexuelles. Pendant ces temps, Shekina Toudi s'est spécialisée dans l'animation, décoration et sonorisation des cérémonies nuptiales, un métier fait majoritairement par des hommes. De son côté, le commissaire principal Cécile Kenda a été récompensé pour son dévouement au sein de la police. Elle est aujourd'hui porte-parole de la police au niveau local. Butembo, Florida Kahambu, Radio Kapi.
Parmi ces femmes de Butembo lauréates du prix Congo Excellence International figure Sephora Maroy. Âgée de 23 ans, elle est mannequin professionnelle. Selon elle, le mannequinat est un bon métier et qui paye bien à Butembo. Cette jeune entrepreneuse et initiatrice du groupe Fashion Model Agency a reçu dimanche dernier le prix d'excellence octroyé par l'ASBL Congo Excellence International pour son métier, pourtant considéré comme un métier de seconde zone dans la ville, dit-elle. Sephora Maroy revient ici sur les opportunités et défis du mannequinat dans la région. Elle est au micro de Florida Kahambu.
La mode ici chez nous n'a pas de valeur. Je vis que si j'ai commencé, peut-être d'autres personnes vont emboîter les pas. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a de gens qui nous amènent leurs produits pour que nous faisons la promotion, qui nous amènent leurs marques pour lesquelles nous faisons de publicité ici. Oui, ça paye, pas comme dans d'autres villes bien sûr, mais ça paye quand même. Le plus grand défi, c'est d'abord la compréhension des gens. Les gens comprennent mal ce que nous faisons. Pour les filles d'abord, ils disent que les filles, c'est pour exposer leur corps, alors que ce n'est pas ça. Au début, nous étions beaucoup découragés par les amis même, la famille, et voire même par les autorités disaient non, vous voulez faire la honte de notre ville. Mais nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que nous voyons le fruit de ce que nous faisons. Mon message va être clair. Les jeunes qui veulent se lancer dans la mode. La mode, c'est un domaine qui est très vaste. Si quelqu'un a le goût de se lancer dans ces domaines, qu'il se lance en fond.
Actualité internationale.
Journée d'élection au Zimbabwe, durant toute la journée samedi, les citoyens se sont rendus dans les bureaux de vote de 28 circonscriptions parlementaires et 122 municipalités des gouvernements locaux afin de procéder à des élections partielles. Ces scrutins sont considérés comme un indicateur pour les élections générales prévues l'année prochaine. Dans certaines circonscriptions parlementaires, 20 législateurs élus de l'opposition avaient ensuite été révoqués. Le leader de l'opposition, considéré comme le principal adversaire du président Emmerson Mnangagwa, a formé son parti il y a seulement 3 mois. Pendant sa campagne, il s'est plaint d'une répression de la part des autorités, plusieurs de ses meetings ayant été interdits. Le Zimbabwe est dirigé par le ZANU-PF depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1980.
L'invité.
Notre invité, c'est Dr Sangaré Idrissa, coordonnateur du projet prise en charge nutritionnelle de l'ONG Aliments qui prend en charge plus de 2000 enfants malnutris et les femmes enceintes et allaitantes dans les 12 aires de santé sur les 18 que compte la zone de santé de Kailo. Il revient sur l'appui nutritionnel que son ONG apporte et ce que la province doit faire pour lutter contre la malnutrition. Dr Sangaré Idrissa s'entretient avec Florence Kizalunga.
Docteur Sangaré Idrissa, bonjour.
Alors, bonjour.
Votre ONG Aliments intervient dans la prise en charge des enfants malnutris, aussi les femmes enceintes et allaitantes dans la zone de santé de Kailo. Votre projet cible combien d'enfants?
Alors, nous attendons dans notre programme, en principe, 2393 enfants malnutris pour une durée de 10 ans, dont 1343 enfants moins de 5 ans, 1050 femmes enceintes et allaitantes. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2500 enfants et femmes déjà pris en charge dans le programme. C'est pour vous dire que nous sommes déjà en dépassement en moins d'une année de notre cible attendue. Donc, il y a beaucoup d'enfants malnutris dans la zone de santé de façon particulière, mais dans la province même de façon générale, due à l'insécurité alimentaire qui sévit dans la zone et les maladies des enfants qui ne sont pas pris en charge dans les temps ou correctement, qui fragilisent la santé des enfants. Après, ils sont malnutris.
Et comment se fait la prise en charge de ces enfants?
Alors, pour la prise en charge de ces enfants malnutris, le volet s'articule à trois niveaux. Il y a le volet communautaire ou les relais communautaires qui sont formés sur la détection de la malnutrition au niveau de la communauté. Nous formons aussi les mamans qu'on appelle l'approche bébé-mère. On forme une maman à détecter son enfant. Donc, après la détection des enfants, ceux qui sont ces malnutris, parce que nous prenons en charge des enfants sévèrement malnutris, il y a des enfants qui sont modérément malnutris que nous ne prenons pas en charge. Donc, ces enfants qui sont sévèrement malnutris, ils sont référés au niveau du centre de santé, des 12 centres de santé que nous appuyons, évidemment, ou au niveau des structures, ils sont été formés sur la prise en charge qu'on appelle les PCMA, et ils confirment maintenant que ces enfants qui ont été référés, reçus, donc après, on donne les intrants nutritionnels, ce qu'on appelle les plompinotes, c'est des sachets de pépins qu'on donne aux enfants malnutris, et les traitements, s'il est malade, parce qu'il y a les traitements médicaux aussi qu'on donne, et autres soins comme les séances de démonstration culinaire, la sensibilisation de la maman pour ne pas que l'enfant tombe malnutri. Et on donne aussi des kits d'hygiène. C'est pour faire la promotion de l'hygiène parce que l'hygiène, les maladies diarrhéiques et la malnutrition sont liées. Donc, on combat en même temps cet aspect.
Les projets de 10 ans, déjà vous êtes au-delà de votre entente. Quel sera l'essor des autres?
Par rapport au dépassement, nous avons déjà alerté notre bailleur, d'ailleurs que nous remercions ici les Canadiens. Et aussi, nous avons approché l'UNICEF par rapport aux intrants nutritionnels, ce qu'on appelle les plompinotes là. On les a rapprochés par rapport au dépassement et ils nous ont aidés avec 1000 et quelques cartons de pépins, 1065 comme ça. Donc, ce qui va nous aider aussi à prendre en charge ces enfants avec ces sachets. Et nous continuons avec les discussions avec notre bailleur pour qu'il puisse encore élargir le financement et nous permettre de continuer à prendre les enfants masse jusqu'en fin du projet.
Dans l'exécution de votre projet, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous déplorez?
Je pense que je profite ici pour remercier l'ensemble des autorités politico-administratives du Maniema et l'ensemble des responsables de la zone de santé. Et je remercie aussi la population par rapport à son adhésion pour le projet. Nous avons peu de difficultés dans la mise en œuvre de ce projet. Et ce que nous déplorons un peu aujourd'hui, c'est quelques rares fois la vente du pépène, souvent par les mamans elles-mêmes qui sont parfois peut-être démunies, n'ont pas de moyens. Ce qui est un problème aujourd'hui que nous sommes en train de travailler. Et les mesures sont là en train de prendre par rapport à cela.
Qu'en est-il des femmes enceintes que vous prenez aussi en charge?
Oui, pour les femmes enceintes aussi, malheureusement, on n'a pas beaucoup autant de femmes enceintes malnutries sévères. Jusque-là, on a pris à peu près une cinquantaine dans le programme. Mais la majorité des femmes sont malnutries modérées, dont le programme ne les prend pas en charge. Mais nous donnons des séances de sensibilisation qu'on appelle démonstration culinaire. Aliments enrichis pour la mère et pendant la grossesse.
Aujourd'hui, vous prenez en charge ces enfants malnutris. Quel serait votre appel aux autorités et voire même à la communauté pour lutter contre la malnutrition en province? Car un jour, Aliments va fermer ses portes.
Les causes de la malnutrition sont profondes et multiples. Donc, au niveau de la province, c'est d'abord développer avec l'UNICEF comment continuer, parce qu'on va laisser déjà les ressources des personnes déjà qualifiées, formées. Donc, avec l'approvisionnement des plompinotes là, ils pourront continuer à faire la prise en charge même après le retrait des aliments un jour. Mais aussi pour traiter les causes profondes de la malnutrition, il faut d'abord appuyer l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la province. Aussi, la lutte contre les maladies de la malnutrition. Sensibiliser la population à faire la vaccination contre le rougeole et parce que le maniema est touché beaucoup plus par l'épidémie de rougeole qui fragilise les enfants et qui les expose à la malnutrition. Donc tout ça, c'est des secteurs qu'il faut balayer pour lutter contre la malnutrition dans la province.
Docteur Sangaré Drissa, merci.
Merci.
Et voilà comment se referme cette édition de Journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons merci pour votre attention soutenue.